Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez le Femme de le Sport, 20e siècle, sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Lisa, votre présentatrice, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves du P2A du Collège Robert Doisneau autour de l'exposition Olympisme, une histoire du monde au Musée national de l'histoire de l'immigration. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler de les femmes aux Jeux Olympiques dans le 20e siècle. Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous accueillons Véronique Serva à notre émission et on va poser des questions sur les sportifs aux Jeux Olympiques au 20e siècle. Nous écouterons ensuite les histoires des deux importantes femmes sportives du 20e siècle dans les Jeux Olympiques. C'est parti pour les femmes dans les sports du 20e siècle. C'est l'heure d'interview. Bienvenue à nos journalistes Daniel et Daniel. Vous recevez Véronique Serva. Vous allez nous parler des femmes dans les sports du 20e siècle.
Bonjour Véronique Serva. Vous êtes historienne et coordinatrice des ressources pédagogiques au Musée de l'Histoire d'Immigration. Merci de participer à notre émission sur la place des femmes aux Jeux Olympiques au début du XXe siècle. Et nous sommes Daniel et Daniel et on va vous poser des questions. Première question, quand est-ce que les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu?
Bonjour et merci de votre première question. Les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne ont eu lieu en 1894 à Athènes.
Est-ce que les femmes ont participé aux premiers Jeux Olympiques?
Alors, les femmes ont effectivement toujours participé aux premiers Jeux Olympiques. Même si on ne les a pas invitées, elles se sont invitées toutes seules. Le premier exemple, c'est qu'en 1894 à Athènes, est relancée cette compétition antique du marathon, de la course de marathon, donc qui relie la cité de Marathon à Athènes, et il n'y a aucune femme, a priori, qui doit y participer. Et donc c'est un Grec qui remporte l'épreuve du marathon, mais en fait le lendemain, une de ses compatriotes, qui s'appelle Stamata Rimiti, décide, elle aussi, qu'elle peut participer en tant que femme à faire la course. Donc même si elle n'y est pas autorisée, elle se lance, et malheureusement pour elle, une fois qu'elle arrive dans les derniers temps de la course, elle trouve les portes du stade où se termine la compétition fermées, donc on ne peut pas évidemment valider sa victoire. Mais en fait, officiellement, les premières femmes à participer aux Jeux Olympiques participent en 1900 aux compétitions, mais elles sont très très peu nombreuses, et comme on l'a déjà évoqué, ce ne sera que pour les Jeux de Paris 2024, qu'il y aura autant d'athlètes féminines que masculines en compétition, que masculins, pardon. Et à titre d'exemple, pour poursuivre sur le marathon, les femmes n'ont participé aux épreuves de marathon aux Jeux Olympiques que depuis 1984. Donc c'est assez récent, comme vous pouvez le voir.
Et merci. Et alors avec Denis.
Quand est-ce que les femmes ont participé en Jeux Olympiques?
Alors, comme je l'ai dit, elles ont plus ou moins toujours participé. Mais c'est vrai que ça a été une participation toujours assez minoritaire, puisque pour reprendre la date de départ, les Jeux de 1900, il y a 997 athlètes engagés dans les compétitions olympiques et seulement 22 femmes. Elles sont présentes que dans certains sports, pendant une très longue période, comme le tennis, l'équitation, la voile ou encore le golf. Une des premières, je dirais, à changer la donne, c'est sans doute Suzanne Lenglen, parce qu'elle va être à la fois une sportive affirmée et victorieuse, et en même temps, elle va être une icône de la mode dans les années 20, avec notamment ses tenues de tennis qui incorporent une jupe courte. Petit à petit, les femmes en fait vont conquérir leur place dans tout un tas d'autres compétitions sportives, Pour vous donner un exemple d'un sport qui est a priori considéré comme étant très masculin, qui est la boxe, les premières épreuves de boxe féminine ont lieu en 2012 au JE de Londres. Donc c'est très récent. Et en fait, le Comité international olympique, le CIO, a posé pour principe depuis 1991 que tout nouveau sport qui intègre les Jeux olympiques doit être ouvert en compétition aux femmes et aux hommes. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas non plus question dans les Jeux olympiques de créer, par exemple, des compétitions mixtes entre qui mélangent des femmes et des hommes, sauf à quelques exceptions près, comme le tennis, par exemple. Mais c'est le cas finalement dans d'autres sports. Et surtout, hors des Jeux olympiques, les sports sont genrés.
Quel sport les femmes pouvaient-elles jouer ? Est-ce que, ces sports étaient les mêmes que ceux des hommes ?
Alors, les femmes participent à de plus en plus de sports. On a compris avec les réponses précédentes qu'elles participent pas toujours aux mêmes que les hommes, ou en tout cas, elles les intègrent plus tard. Hein. C'est le cas de la boxe que je viens d'évoquer, ou du marathon, par exemple, qui est a priori considéré peut-être comme un sport moins masculin, et pourtant les femmes n'y participeront qu'en 1984. Il y a toujours cette idée persistante que c'est trop dur, qu'elles n'en ont pas les capacités, que leur corps n'est pas adapté à ça. Et c'est vrai que les carrières d'athlètes féminines sont toujours exposées à des brisures à partir du moment où elles tombent enceintes, etc. etc. Donc, mais d'une façon générale, elles conquièrent, ces femmes, des espaces sportifs de plus en plus nombreux. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'arriver, même si ça reste encore assez un idéal plutôt qu'une réalisation, d'arriver à la parité totale. Voire à plus de femmes que d'hommes dans les compétitions.
Pour nous, les milliards est très important pour les sports féminins.
Alors, Alice Milliat, c'est effectivement quelqu'un qui a eu un rôle clé dans la conquête, dans l'organisation et la visibilisation du sport féminin. Alors d'abord, elle est sportive, elle pratique comme sport l'aviron, c'est une Nantaise, et en fait, elle devient une militante du sport féminin dans les années 20, et elle va créer une fédération internationale du sport féminin pour montrer que les femmes sont tout à fait capables de pratiquer les mêmes sports que les hommes. Et petit à petit, en fait, les compétitions sportives qu'elle organise en parallèle avec les Jeux olympiques remportent un succès de plus en plus important, tant et si bien que le Comité international olympique considère que finalement, les Jeux féminins, avec le succès qu'ils remportent, font de l'ombre aux Jeux olympiques masculin finalement, en tout cas plus masculin, et du coup ils finissent par céder à Alice Milliat et à rapatrier, je dirais, ce qu'elle organise en termes de compétition pour les femmes au sein des Jeux olympiques. Donc finalement elle perd aussi le pouvoir sur l'organisation de ces Jeux féminins, mais tient la reconnaissance de son combat pour le sport féminin à ce moment-là.
Quand est-ce que les premiers Jeux mondiaux féminins ont eu lieu ? Où ont-ils eu lieu ?
Alors, les premiers sports mondiaux féminins, c'est en 1922 qu'ils ont lieu. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est à Paris, puisque Alice Milliat était française et elle a sans doute profité du fait qu'elle était française pour les organiser en France. Ensuite, il y en a eu d'autres, comme tous les Jeux à l'époque sont essentiellement situés en Europe. Il me semble qu'il y en a eu d'autres à Londres, où les mouvements féministes aussi sont extrêmement importants, et peut-être en Suède également, si ma mémoire ne me fait pas défaut.
Qui sont les sportives importantes des 20e siècle ?
Alors, on en a déjà mentionné une, Suzanne Englen, tennis woman, joueuse de tennis. Mais si on veut balayer un petit peu l'ensemble du XXe siècle, peut-être il y a sans doute une figure extrêmement marquante du sport olympique, qui est la jeune Roumaine Nadia Comăneci, qui est entrée dans l'histoire en 1976 lors des Jeux olympiques de Montréal, parce qu'elle a réalisé des figures de gymnastique tellement parfaites lors des compétitions que les juges lui ont attribué la note maximum de 10, mais que les compteurs et les panneaux d'affichage n'étant pas prévus pour pouvoir montrer cette note-là, en fait, ça affichait 1 au lieu de 10, et donc, elle a, entre guillemets, elle a cassé le compteur, Nadia Comaneci. Peut-être qu'on pourrait mentionner une coureuse du 400 mètres haies marocaine, Nawal El Moutawakel, qui ensuite a fait une carrière politique, notamment, et militante au sein du CIO pour le sport féminin, pour le sport tout court. Donc, c'est la première femme africaine, maghrébine et musulmane à remporter une médaille d'or au 400 mètres haies en 1984. On peut peut-être aussi mentionner Neroli Ferrol, qui a participé aux Jeux olympiques des Valides en étant, elle, une compétitrice de tir à l'arc handicapée puisqu'elle était en fauteuil suite à un accident de moto. On est dans les années 80. Et je terminerai en 2000 par Cathy Freeman, qui est une athlète du 400 mètres, qui est pour partie, qui est australienne, hein, mais qui est pour partie d'ascendance aborigène, qui a été porteuse de la flamme olympique dans le stade de Sydney, qui était la ville organisatrice des JO de l'an 2000, et qui a remporté une médaille d'or. Et en fait, elle a été le symbole de la réconciliation de la nation australienne, voulue lors de ces Jeux olympiques, entre les colons britanniques et leurs descendants, et puis les peuples aborigènes qui ont été très largement spoliés de leurs terres.
Merci Véronique Serva et merci Daniel Danil.
Si.
On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale. D'écouter Ramener la coupe à la maison des Végédriens. L'émission Les femmes dans le sport au XXe siècle continue sur Radio Campus Paris. Tout de suite, on écoutait le portrait de l'athlète Suzanne Langlais et Alice Mila, réalisé à partir de la visite de l'exposition sur les Jeux Olympiques. On écoute le premier portrait d'Alice Mila.
Alice Mila a été un Ramus, un Najus. Française, elle est née le 5 mai 1884 à Nantes.
Elle a créé le premier championnat de France et la première équipe de France de football féminin en 1920. Elle a organisé des Olympiades féminines à Monaco en 1921, puis les Jeux mondiaux féminins à Paris en 1922. À cette époque, les femmes n'avaient pas encore le droit de participer aux Jeux olympiques avec les hommes. Suzanne Lenglen.
L'actrice s'appelle Suzanne Lenglen. Elle est française. Elle joue au tennis. Elle participe aux Jeux olympiques de Londres en 1920.
Elle a gagné 3 médailles, dont 2 en or. Suzanne Lenglen a été une championne olympique et la première femme à devenir joueuse de tennis professionnelle. Elle a remporté 31 titres et elle a dominé le tennis féminin entre 1919 et 1926.
On écoute maintenant le deuxième portrait de Suzanne Lenglen.
Elle est surnommée la divine par la presse française. Elle est considérée comme la première grande diva et championne de tennis féminin. Elle a donné son nom à un cours de tennis dans le stade Roland-Garros.
C'est elle qui a inventé la tenue des tennis féminins modernes. C'est une tenue blanche plus courte que les autres robes de l'époque. Donc ça a été différent. Sa tenue a été dessinée par un styliste et aujourd'hui encore, les tenues des tennis utilisées gardent le même style, courte et avec des plis.
C'est la fin de notre émission « Les femmes dans le sport au XXe siècle ». Merci à Daniel, Daniel et Madame Véronique Servois. Merci à Amri pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à tous et à tous sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous et à tous. Vous écoutez Paralympique sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Souksawan, votre présentateur, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de la classe UPE2A du collège Robert Donneau. Autre de l'exposition Olympisme, une histoire du monde au Musée national de l'histoire de l'immigration.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler des Jeux paralympiques. Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous accueillerons Véronique Servat, qui est historienne. Nous écouterons ensuite des portraits d'athlètes Georges Isé et Neroli Ferrol. C'est parti pour Paralympique.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
C'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste, Réan. Vous recevez Véronique Servat. Vous allez nous parler des Jeux Paralympiques.
Bonjour. Je suis Réan, je vous pose des questions à Véronique Servat sur les Jeux paralympiques. Quel est le jeu paralympique ?
Qu'est-ce que les Jeux paralympiques ? D'accord. Ce sont des jeux qui sont réservés à des athlètes qui souffrent de handicap, généralement physique.
Où était le premier jeu paralympique ?
Alors, les premiers Jeux paralympiques, officiellement, sont ceux de Tokyo en 1964. Mais en fait, l'histoire du paralympisme remonte à la période qui suit la Deuxième Guerre mondiale. En 1948, un médecin britannique organise des compétitions sportives dans un centre médical qui se situe donc en Angleterre, à Stockmanville, et qui sont destinées à permettre aux blessés de guerre, aux personnes qui ont été donc amputées ou handicapées pendant le conflit, de se soigner en faisant du sport et en retrouvant une certaine mobilité. Et donc, il organise dans ses centres médicaux des compétitions sportives régulièrement et il s'aperçoit que ça donne d'excellents résultats sur ses patients, tant au niveau physique qu'au niveau mental. Tant et si bien que finalement l'idée de développer le sport pour les personnes handicapées physiques, essentiellement en fauteuil à l'époque, se développe. Et donc en 1960, aux Jeux de Rome, ont lieu les premiers pré-Jeux paralympiques pour des personnes qui sont en fauteuil roulant.
Où est-ce que était le jeu silencieux de 1924?
Alors, les Jeux silencieux de 1924 se sont déroulés à Paris. La communauté sourde et aussi les personnes muettes, ce sont des groupes qui se sont très vite constitués en associations, bien plus rapidement que d'autres personnes souffrant de handicap. Comment dire ? Du coup, ils ont créé très rapidement des associations sportives et des jeux pour les sourds qui aujourd'hui sont devenus ce qu'on appelle les Deaflympics, c'est-à-dire les Jeux Olympiques pour les sourds. Ça continue à exister. Donc en 1924, c'est la première édition avec notamment autour de Paris des compétitions de vélo, des compétitions d'athlétisme, mais aussi du sport collectif comme le football.
Quels sont les sports pratiqués aux Jeux paralympiques ?
Alors, il y en a un nombre très important, que ce soit du tir à l'arc, par exemple, puisqu'on a commencé avec les Jeux paralympiques, on commençait avec des personnes qui étaient en fauteuil roulant. Donc, par exemple, le tir à l'arc, ça s'y prête bien. Ça a d'ailleurs donné lieu à des polémiques dont vous parlerez peut-être dans le portrait de Néroli Ferrol qui viendra après. Mais aujourd'hui, ça concerne quasiment tous les sports. Enfin, une très grande variété en tout cas d'épreuves olympiques, notamment d'athlétisme, puisque les prothèses sont de plus en plus performantes et permettent aux personnes amputées, par exemple, de pouvoir courir très vite, ou encore en natation.
Comment les sports sont adaptés aux Jeux paralympiques ?
Alors, il y a différentes adaptations. Il y a des adaptations, je dirais, d'ordre technique, et puis parfois il y a aussi de l'aide humaine, notamment pour tout ce qui concerne les personnes malvoyantes ou aveugles. Il peut y avoir une personne qui vient en appui dans la compétition pour les guider à réaliser les gestes sportifs nécessaires à la pratique de leur sport. Mais très souvent, et c'est là où la technologie apporte quelque chose d'extrêmement puissant pour ces personnes et ces compétiteurs. Très souvent, ce sont des aides techniques. Les épisodes célèbres, c'est notamment tout ce qui concerne les prothèses qui suppléent les membres disparus, que ce soit les jambes ou les bras, qui aujourd'hui sont réalisés dans des matériaux tels que ça permet à ces personnes de réaliser des exploits sportifs tout à fait extraordinaires.
Quel est le sport ouvert aux personnes qui ont un handicap mental?
Alors, c'est l'histoire des Jeux paralympiques pour les handicapés, personnes qui ont un handicap mental. C'est une histoire assez tumultueuse et assez récente. Les sportifs ayant un handicap mental ont été intégrés aux Jeux olympiques, donc aux Jeux paralympiques, au cours des années 90. Et en fait, ça a donné lieu à un scandale parce que l'équipe d'Espagne, qui devait comporter des sportifs porteurs de handicap mental, il s'est avéré qu'il y avait eu tricherie et que la plupart des membres de l'équipe qui avaient remporté les compétitions n'avaient pas du tout de handicap. Par conséquent, ça a un petit peu porté préjudice au progrès du handicap mental dans le mouvement olympique. Donc du coup, ça progresse très très peu. Il y a, je crois, 5% des athlètes en compétition dans les Jeux paralympiques qui sont porteurs de handicap mental. Et là, pour les dernières sessions des Jeux olympiques qui ont eu lieu notamment à Tokyo, mais aussi à Rio et puis une autre ville, il y a vraiment que quelques compétitions qui sont concernées, quelques compétitions d'athlétisme, un petit peu la natation et aussi le tennis de table, discipline dans lesquelles des Français notamment se sont distingués, mais ça reste très peu ouvert. Et puis la catégorisation du handicap mental dans le mouvement paralympique pose problème parce qu'en fait, il est difficile de le mesurer et puis on met un peu tout le monde dans le même sac, que ce soit des personnes trisomiques 21 ou porteuses d'autres troubles qui peuvent les handicaper dans la compréhension et la pratique sportive.
Merci Véronique Serva et merci Réan.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
Tout de suite, on écoute le portrait des athlètes Georges Isé et Néroli Ferrol, réalisé à partir de la visite de l'exposition sur les Jeux Olympiques. On écoute le premier portrait de Georges Isé.
Il est allemand et il a immigré aux États-Unis. Il participait aux Olympiques à Saint-Louis aux États-Unis en 1904. Il remportait 6 médailles.
George Hill a perdu une jambe. Il est usambiste. Il est le premier athlète en situation de handicap dans l'histoire des Jeux Olympiques. Sur la photo en noir, on voit 7 gymnastes. Ils ont le même figure. Ils ont une figure sur des barres de gymnastique et ils ont la tête en bas. Les 7 garçons ont le même maillot, mais c'est bizarre car ils portent des chaussures de ville pour faire de la gymnastique.
On écoute maintenant le deuxième portrait de Nérolie Ferrol.
L'athlète s'appelle Nérolie Ferrol. Elle vient de Nouvelle-Zélande. Elle fait du tir à l'arc. Elle participe aux Jeux paralympiques de plusieurs disciplines, mais son monte sur le plus digne. Plus tard, elle rapporte un tir à l'arc en modèle médial aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques en 1980 et 1982.
Nérolie Ferrol est paralysée après un accident aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1924. Elle devient la première personne porteuse de handicap à concourir aux Jeux olympiques après avoir pris aux Jeux paralympiques.
Sur la photo, on voit Nérolie Ferrol assise sur une chaise roulante. Il est au trône de tirer à l'arc. Elle est habillée tout en blanc. Elle porte un chapeau blanc. Il sur une pelouse. Il est très courageux, je trouve.
C'est la fin de notre émission paralympique. Merci à Véronique Serva, notre invitée, à Réan, notre journaliste, à moi, Souksawan, votre présentateur. Merci à Najma et Diago pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.